une excellente fête de la Pentecôte. Quand Dieu nous a appelés à son Église, si vous êtes comme moi, il y a une chose majeure qui nous a frappés, que Dieu nous a révélée, que la grande majorité d'entre nous, nous ne savions pas avant ou que nous entrevoyons de façon erronée. C'est que le Saint-Esprit de Dieu n'est pas une troisième personne de la Trinité, d'une Trinité. Dieu n'est pas une Trinité. Dieu est Père, Fils, et il est une famille dans laquelle il nous appelle à entrer. Donc, Dieu n'est pas une Trinité, c'est-à-dire, il y a le Père, il y a le Fils, et le Saint-Esprit, c'est leur puissance. C'est par le Saint-Esprit qu'ils ont créé toutes choses et qu'ils tiennent toutes choses en existence. Quand Dieu appelle quelqu'un, il met un peu de cette puissance-là autour de la personne ou avec la personne. Pourquoi? Pour qu'elle puisse commencer à comprendre la Bible et commencer à le connaître, lui, en tant que le vrai Dieu, avec ses lois, ses fêtes, et ainsi de suite. Et plus tard, quand la personne a maturé, s'est repentie de ses fautes, s'est fait baptiser, au moment de l'imposition des mains par un ministre de Dieu, Dieu met alors son Saint-Esprit dans la personne. Et là, sa puissance est à l'intérieur de la personne pour la rendre capable de vaincre le péché et de développer le caractère de Dieu. En même temps, ce que ça fait, c'est que ça l'engendre dans sa famille. Il a mis sa semence en nous. Et ça nous donne le moyen de vaincre nos fautes et le moyen de croître spirituellement, c'est-à-dire de développer son caractère. Dans l'Ancien Testament, il y a seulement quelques individus qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, chacun en son temps, à son époque. Vous avez certains rois, comme le roi David, par exemple. Vous avez les prophètes, dont Dieu s'est servi pour annoncer la vérité et annoncer les choses à venir. Alors, c'est très peu nombreux en termes de personnes dans l'Ancien Testament, ceux qui avaient le Saint-Esprit en eux. Ce qui est arrivé par après, après que le Christ est venu sur la terre, c'est qu'à la Pentecôte de l'an 31 de notre ère, pour la première fois dans toute l'histoire, le Saint-Esprit a été répandu sur un groupe d'individus en même temps. On voit ça dans Acte 2. Et à ces individus-là, Dieu a confié la mission d'annoncer l'Évangile, le monde nouveau qui s'en vient. Et nous faisons partie de ce petit groupe-là, le petit troupeau que Dieu appelle maintenant. Et nous avons la même mission, annoncer ce qui vient, annoncer l'Évangile, préparer le retour de Christ et nous préparer à régner avec lui. Et tout ça, ça a rapport directement avec la Pentecôte, parce que tout ça ne peut se faire seulement que par la puissance du Saint-Esprit. Seulement que par la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez voir aujourd'hui dans le sermon jusqu'où ça va. Et à quel point, ce que nous célébrons aujourd'hui de façon particulière, le Saint-Esprit de Dieu, Dieu par son Saint-Esprit, vous allez voir à quel point c'est important, comment on doit en être conscient, comment on doit demander son Saint-Esprit davantage chaque jour et comment on doit l'utiliser pour vivre selon ses voies. Aujourd'hui, ce qu'on va faire dans le sermon, c'est qu'on va voir certaines fonctions du Saint-Esprit. Dans le contexte de la dernière Pâque, le Christ, avec ses disciples, a souligné le rôle essentiel de la puissance du Saint-Esprit pour les appeler. À ce moment-là, il s'adressait à ses disciples, mais ça s'adresse à nous aujourd'hui. Allez dans Jean, le chapitre 14. Jean, chapitre 14. Ça, c'est un passage qu'on lit chaque année à la Pâque. Et c'est dans ce contexte-là que le Christ a expliqué certaines choses concernant le Saint-Esprit à ses disciples. Jean 14, versets 15 à 17. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Ça, c'est la base de notre démarche chrétienne. « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous. » À ce moment-là, le Saint-Esprit était simplement avec les disciples. Et c'est pour ça qu'ils commençaient à comprendre certaines choses. Dieu leur avait donné un peu de son esprit avec eux autres pour qu'ils soient capables de commencer la démarche. Et après, il dit, qu'est-ce qui va leur arriver plus tard? Qu'est-ce qui allait leur arriver? Et il sera en vous, donc plus tard. Okay? Et ça, ça s'est produit au moment de la Pentecôte de l'an 31, lorsqu'ils ont reçu en eux le Saint-Esprit de Dieu. Mais regardez bien après ça, verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Le Christ dit, je m'en vais, oui, mais je ne vous abandonnerai pas, là. Je ne vous laisserai pas seul. Je viendrai à vous. Peut-être que vous ne vous êtes jamais arrêté à voir ce que ça signifie. Je viendrai à vous. Moi, je vous pose une question. Comment est-ce que le Christ a fait depuis ce temps-là pour venir à ses disciples alors qu'il est dans le ciel avec son Père, à la droite de son Père? Par son esprit, par sa puissance. C'est comme ça qu'il est venu à ses disciples et c'est comme ça qu'il vient à nous aujourd'hui. Regardez le verset 23 qui exprime encore davantage la même chose. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Donc, il a promis que lui et le Père, par leur puissance, allaient vivre dans les appelés qui seraient baptisés et qui recevraient la semence du Saint-Esprit en eux. Il dit, « Mon Père et moi, nous allons vivre en vous. » Alors, voyez-vous, le Saint-Esprit, il est essentiel à notre relation avec le Père et avec le Fils. Notre Père à nous et le Fils qui est notre grand frère, qui est le premier de la famille de Dieu. Et ça, c'est la base de notre cheminement spirituel. Et c'est le seul moyen, le Saint-Esprit, par lequel nous pouvons atteindre le but, la vie éternelle. Voyons maintenant comment ça répond à nos besoins. On a absolument besoin du Saint-Esprit pour faire le chemin, pour arriver à la vie éternelle, à l'immortalité. Et voyons dans ce sens-là comment le Saint-Esprit agit dans nos vies de différentes façons. Le titre de mon message aujourd'hui, « Fonction vitale du Saint-Esprit dans nos vies ». Le premier besoin ou la première façon par laquelle le Saint-Esprit nous est absolument essentiel, c'est pour développer notre relation avec Dieu. Pour développer notre relation avec Dieu. Je vous pose une question. Sur le plan humain, quels sont les rapports les plus profonds, les plus intimes, les plus puissants entre des êtres humains? Ce sont les rapports dans un couple, entre un mari et sa femme, entre l'épouse et l'époux. Et c'est la même chose en ce qui concerne l'Église et le Christ. L'Église est appelée à marier le Christ à son retour. C'est ce que la Bible nous montre. Alors pour nous, ce sont les choses les plus importantes de développer un lien intime, profond avec Dieu et en particulier avec Jésus-Christ, en préparant le retour du Christ. Allez dans Matthieu 25, une parabole qu'on connaît très bien, la parabole des vierges. Matthieu 25, la parabole des 10 vierges. Dans le fond, ça nous montre ce qu'il nous faut absolument avoir, le Saint-Esprit, et pas juste le fait de l'avoir, mais de l'avoir en quantité suffisante pour être uni au Christ à son retour. Sinon, ce n'est pas possible. Et il y a une grande leçon pour nous, en même temps, un grand avertissement dans ce contexte-là, dans cette parabole de Matthieu 25 que le Christ a donnée. Lisons-la à partir du verset 1. Le Christ déclare ceci. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. » Je souligne que ce sont tous des membres de l'Église. Ce sont tous des membres de l'Église de Dieu. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Et cette huile, ça représente le Saint-Esprit de Dieu dont nous avons absolument besoin, et pour comprendre la parole, et pour en vivre, et pour vaincre nos faiblesses. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Il y en avait pas assez. Il y en avait eu, mais il y en avait pas assez pour faire toute la route. Les sages répondirent, « Non, il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent dans la salle des noces avec lui. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges, membres de l'Église, vinrent et dirent, « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous! » Mais il répondit, « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Voyez-vous l'importance de l'huile, l'importance de la quantité suffisante d'huile. Et l'huile, ça représente le Saint-Esprit de Dieu qui nous est donné, qui est mis en nous au moment de notre baptême, au moment de l'imposition des mains, mais qu'on doit demander à Dieu chaque jour pour être capable de l'utiliser pour, pour la brûler dans les actions qu'on fait, dans les bonnes œuvres qu'on fait et dans le fait de vivre selon ses lois. L'huile, là, c'était essentiel en ce qui concernait le temple. Que ce soit la tente ou le temple bâti en dur, bâti par Salomon ensuite, l'huile était essentielle. Ça servait à différentes fonctions. Quelles fonctions? D'abord, c'était pour les offrandes. On peut voir ça dans les textes. Et ça servait à alimenter la menorah, qui est le chandelier à sept branches, qui devait, lui, brûler continuellement dans le temple. Et l'huile servait aussi pour oindre les sacrificateurs et les rois. D'ailleurs, le Christ, qui est un sacrificateur, c'est même le souverain sacrificateur, il déclare dans Luc 4, verset 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » L'Esprit de son Père, la puissance du Père, était sur le Christ et dans le Christ, en grande abondance pour qu'il soit capable d'accomplir ce qu'il avait à accomplir. « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer de bonnes nouvelles aux pauvres. À notre baptême, ça a été la même chose pour nous. À notre baptême, dans l'Église de Dieu, nous aussi, nous avons été oints par le Christ. Vous verrez ça dans 1 Jean 2, verset 20. 1 Jean 2, verset 20. Il est écrit, « Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. » Et vous avez tous de la connaissance. L'onction qu'on a reçue, c'est semblable à celle du Christ, on a reçu le Saint-Esprit. Et c'est comme ça qu'on peut avoir la connaissance ou, disons, la compréhension des choses. Alors, si le Saint-Esprit, la puissance de Dieu, qui nous donne ce dont nous avons besoin pour cheminer spirituellement, pour comprendre, pour avancer et pour avoir la connaissance réelle de ce que la parole de Dieu dit. Dans la parabole des 10 vierges, le Christ fait allusion à l'utilisation de l'huile en tant que lumière et en tant que lumière dans le temple aussi. Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à penser que le temple à l'intérieur était totalement noir. Il était entièrement obscur parce qu'il n'y avait pas de fenêtre. Il n'y avait aucune lumière naturelle qui pouvait réussir à pénétrer à l'intérieur. La seule source de lumière dans le temple venait de la menorah, le chandelier à sept branches, qui devait rester continuellement allumé, comme ça avait été donné en tant que directive par Dieu. Et ça représente l'Église. C'est le symbole de l'Église de Dieu au milieu actuellement d'un monde obscur, de plus en plus ténébreux, de plus en plus sombre, là où nous sommes. L'Église de Dieu, dans ce sens-là, elle est la petite lumière dans les ténèbres de plus en plus épaisses qui sont dans le monde actuellement. Allez un peu plus avant dans Matthieu au chapitre 5. Et je vous pose la question. Dans la parabole des 10 vierges, à quel moment est-ce que l'époux revient? Est-ce qu'il revient le matin, durant l'avant-midi, au début de l'après-midi? Il revient au milieu de la nuit, au moment de grande noirceur. Et ce sera exactement pareil lorsque le Christ va revenir. Parce que ce sera à la fin de la grande détresse et à la fin de la colère de Dieu, la dernière année des 3 années et demie de la grande détresse. Nos lampes sont alimentées par l'Esprit de Dieu. Nous sommes cette lumière que Dieu veut voir briller dans le monde. On n'a pas à convertir le monde, mais on a à vivre différemment. L'Église, elle, a à annoncer la bonne nouvelle du monde qui vient à l'ensemble du monde. Mais en tant que membre de l'Église, on doit vivre selon ses lois et dans ce sens-là, être une lumière au monde. Matthieu 5, verset 14. « Vous êtes la lumière du monde. » C'est très clair. « Vous êtes la lumière du monde. » Ça, c'est notre responsabilité. Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, parce qu'on a cessé de vivre selon nos anciennes façons de faire, c'est évident pour ceux autour, mais c'est un témoignage de la culture de Dieu, de ce qui s'en vient pour l'ensemble de l'humanité. Que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Ce ne sera peut-être pas immédiatement pour l'ensemble, mais au retour de Christ, quand Dieu va ouvrir l'esprit de tous les gens à être appelés, à ce moment-là, ils vont comprendre et ce que vous aurez semé va porter fruit. Dans Matthieu 25, verset 13, le dernier verset que nous avons lu tantôt dans ce qui parlait des vierges sages et des vierges folles, il nous est commandé quoi? De veiller. Veiller à quoi? Veiller à notre condition spirituelle. C'est de ça qu'il est question avec les vierges folles et les vierges sages. Elles sont dans deux conditions spirituelles différentes, de sorte qu'il y en a la moitié qui peuvent aller aux noces de l'agneau parce que leur condition spirituelle est comme elle se doit pour être digne d'aller aux noces de l'agneau, alors que dans l'autre partie, leur condition spirituelle n'est pas valable. On est invité à veiller à notre condition spirituelle, à nous tenir prêts. Vous savez, notre appel, ce n'est pas un jeu. Et Dieu ne joue pas non plus. Il nous donne des choses extraordinaires et il nous promet un avenir fantastique. Mais on a un rôle à jouer, même si on n'est pas parfait. Et ça, il le sait. Et il nous donne le temps d'y arriver, mais il faut que tout notre cœur soit là pour changer au fur et à mesure, en le suppliant de nous transformer par son esprit. Je pose une autre question. Est-ce que vous et moi, est-ce que nous avons assez de Saint-Esprit pour faire partie du groupe de serviteurs fidèles et zélés qui seront dignes d'être là pour accueillir le Christ et pour participer aux noces de l'agneau? C'est une question qu'on doit se poser sérieusement et qui fait toute la différence. Ça fait la différence entre vivre nonchalamment en disant « Je connais la vérité, j'ai la Bible » ou bien de dire « Faut que je sois prêt tout le temps, faut que je sois prêt tout le temps ». Parce qu'au milieu de la nuit, le cri vient « Voici le Christ ». Il faut être prêt. Il faut être prêt parce que certains d'entre nous peuvent s'endormir avant que le Christ revienne. Il faut être prêt avant de s'endormir. Et si on est encore vivant au moment que le Christ revient, il faut être prêt là. Donc, chaque jour, il faut être en train de se préparer. Est-ce qu'on développe un rapport constant avec le Christ? Un rapport intime, un rapport intense? Si nous n'avons pas le Saint-Esprit, ou je vais plus loin, si nous n'avons pas suffisamment de Saint-Esprit, nous ne serons pas là. C'est ce que la description des vierges folles et des vierges sages nous montre. C'est le message de la parabole. Il faut désirer de plus en plus du Saint-Esprit et l'utiliser pour développer avec le Christ une relation très étroite, constante. Ce que j'appelle, que j'ai appelé dans un sermon déjà, marcher en constante conscience de Dieu et du Christ. Pour avoir la vision que le Christ et son Père ont. Pour voir les choses dans leur perspective. Plus j'ai l'Esprit de Dieu, plus je le mets en pratique, plus je travaille à développer son caractère, plus Dieu me donne d'avoir sa perspective et non pas la mienne. Alors donc, le premier besoin qu'on a du Saint-Esprit, c'est pour développer une relation avec Dieu. Deuxième besoin, c'est pour revêtir le Christ. Et je vais vous expliquer. C'est une expression biblique. C'est un commandement qui nous est donné, de revêtir le Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? c'est d'apprendre justement à penser comme lui. Apprendre à penser comme lui, à réagir comme lui, à agir comme lui. De voir les choses à sa façon, de voir les choses à la façon du Père. C'est pour ça que Pierre, dans Actes 5, verset 32, déclare ceci. « Nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à qui? À ceux qui lui obéissent. » Alors voyez-vous que si je diminue d'obéir à Dieu, je diminue de recevoir son Saint-Esprit. C'est proportionnel. Plus je m'efforce, même si je ne suis pas parfait, à obéir à Dieu et que je fais ce qu'il faut, que je le supplie, plus à ce moment-là, Dieu me donne de sa puissance pour être capable d'aller plus loin. Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. Et le point de départ de ce processus merveilleux qui nous mène vers la vie éternelle, c'est quoi? C'est l'obéissance aux lois de Dieu. Qu'est-ce que le Christ a dit tantôt? « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et il revient souvent avec ça. C'est l'obéissance. Il faut d'abord désirer obéir. Et après ça, se mettre en marche pour obéir et y tenir. Alors, on peut commencer à comprendre la mentalité de Dieu, sa façon de penser. Allons dans 1 Jean chapitre 3, s'il vous plaît. 1 Jean chapitre 3. Vous savez, Dieu a placé un esprit dans l'homme. C'est un élément non physique qui nous permet de comprendre les choses physiques qui existent autour de nous. L'esprit dans l'homme. Mais sans l'esprit de Dieu, c'est incomplet. Les êtres humains, avec l'esprit humain, peuvent bâtir des fusées qui vont sur d'autres planètes et ainsi de suite. Mais en même temps, ils ne sont pas capables de s'entendre avec leurs voisins. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu, ils n'ont pas la vision de Dieu, la mentalité de Dieu. Il faut absolument l'esprit de Dieu. Seulement l'esprit humain ne suffit pas. On a besoin de se voir donner le Saint-Esprit de Dieu pour être capable de se connecter avec Dieu. Il faut avoir le même esprit pour se connecter avec Dieu. Là, à ce moment-là, on peut avoir une relation avec lui. Et en même temps, de se déconnecter de l'esprit méchant de la société où nous avons grandi et qui continue à se développer dans le mal. Par l'Esprit de Dieu, on peut être plus proche de lui si on l'utilise au maximum et on peut en même temps s'éloigner des façons de faire du monde. 1 Jean 3, verset 7. Qu'est-ce qui nous est dit? Petits enfants, que personne ne vous séduise. Et ça, c'est le jeu de Satan depuis le tout début. Il a commencé par séduire Ève, qui a ensuite fait pécher Adam, et ainsi de suite, comme on connaît l'histoire. Mais c'est son jeu depuis le tout début. Et il continue de jouer le même jeu parce que c'est efficace. Ça a toujours été efficace et c'est encore efficace. Semer des doutes, détourner l'attention pour aimer des choses qui sont contraires aux choses de Dieu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Versets 7 et 8. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Comme lui-même est juste, voyez-vous? Il faut être comme le Christ, ça c'est notre standard. Celui qui pratique le péché est du diable. C'est pour ça que je ne peux pas, en tant que membre de l'Église de Dieu, en tant qu'appelé, pratiquer le péché. Il peut m'arriver de tomber, et là je demande pardon, je demande son aide, mais de le pratiquer de façon continue en ne changeant pas et en ne mettant pas l'accent pour changer, à ce moment-là, je ne suis pas de Dieu. Il dit ici, celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Et notre libération, notre sortie de l'esclavage de notre Égypte à nous, c'est par le Christ, c'est par la puissance de Dieu. Dans le fond, Paul dit la même chose, vous pourrez aller voir, on ne s'y reportera pas, mais dans 2 Thessaloniciens 2, Paul donne le même principe en parlant du temps de la fin, là où on se trouve, là où la grande séduction à travers le monde va bientôt apparaître et où ça va prendre une force spéciale aux enfants de Dieu pour ne pas être séduits, parce que ce sera puissant à travers le monde. Quand vous aurez un grand faux prophète qui va faire des miracles jusqu'à faire descendre du feu du ciel et que l'humanité sera en admiration devant ce qui va se passer, il faudra être vraiment ferme, c'est-à-dire il faudra être proche de Dieu. Il faudra être vraiment connecté avec Dieu et avoir son esprit pour distinguer les choses. Comment éviter d'être séduit? En ayant l'Esprit de Dieu dans nos vies. Ça, c'est une chose, mais c'est pas tout. En l'utilisant, en le faisant brûler pour que ça sorte dans nos vies, dans notre nouvelle façon de vivre, en rendant service, en étant bon, en étant patient, en développant les traits de caractère que Dieu veut qu'on développe. En faisant ça, on brûle notre huile. Et c'est pour ça que chaque jour, on demande à Dieu de nous donner davantage de son Saint-Esprit, de nous en donner encore, parce qu'on a utilisé. Et donc, la réserve a baissé, si vous voulez. Et on redemande de son Saint-Esprit. 1 Corinthiens 2. On va lire ici le verset 9, et qui nous montre encore qu'il nous faut avoir l'Esprit de Dieu pour comprendre les choses. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour qui? Pour ceux qui l'aiment. Et on revient à l'obéissance de tantôt, parce que aimer Dieu, c'est vivre selon ses lois. Alors Dieu donc donne de comprendre par son esprit à ceux qui lui obéissent, qui mettent en pratique ce que Dieu leur demande de faire, qui utilisent son Saint-Esprit. Il faut recevoir le Saint-Esprit pour comprendre les choses. Les gens, vous savez, aiment à tenter, ça vous le savez, d'imaginer qu'est-ce qui va arriver dans 10 ans, qu'est-ce qui va arriver dans 20 ans, qu'est-ce que nous réserve l'avenir. Je parle du monde en général ici. Les gens aiment essayer de trouver comment ça va être dans quelques années. Mais dans le fond, Dieu dit ici, vous n'en avez aucune idée. Vous n'en avez aucune idée sans le Saint-Esprit. C'est par le Saint-Esprit. Parce qu'il dit, l'œil n'a pas vu, l'oreille n'a pas entendu, et ne peut pas comprendre les choses à moins d'avoir l'Esprit de Dieu. Alors Dieu dit ici, en d'autres termes, vous n'avez aucune idée de ce qui s'en vient. Sans le Saint-Esprit, on ne peut pas le savoir. Ce sera encore la même histoire que ça a été depuis le début, c'est-à-dire un monde physique avec ses problèmes. Et depuis le choix mauvais d'Adam et Ève, ça a toujours été un roulant et un retour de ces choses-là, un retour de solutions humaines qui ne règlent pas les problèmes. Et aujourd'hui, on se retrouve encore, problèmes de santé, de pauvreté, de transport, de pollution, et ça augmente. Est-ce que ça va disparaître? Non! Non, ça ne disparaîtra pas. Les humains changent seulement l'apparence des choses. Les humains changent seulement l'apparence des choses. Ils changent seulement les problèmes de forme ou de place. Ils ne règlent pas. Ils changent les problèmes de forme ou de place. Je vous donne un exemple. À la fin du 19e siècle, la ville de New York avait un problème majeur à la fin des 1800. Ça puait. Et pas à peu près. Parce que quand vous regardez les récits historiques et ce qui se passait dans cette ville-là, c'est que les rues étaient remplies d'urine, d'excréments, de déchets. C'était comme ça à l'époque. Donc, c'était horrible. Et vous imaginez toutes les mouches qui venaient avec ça, les rats qui se promenaient. C'était la ville de New York à l'époque. OK? Alors, sûrement que les gens disaient, qu'est-ce qu'il va y avoir dans le futur? Comment on va régler le problème? Alors, ils ont trouvé certaines solutions, mais regardez ce qui s'est passé. Ça pue encore. C'est pas la même chose, mais ça pue encore, mais différemment. Pourquoi? Parce que tout a été remplacé. Ils ont introduit de nouvelles formes de pollution par les voitures, par les gaz à effet de serre et ainsi de suite. Et là, maintenant, les gens sont pris avec des cancers de poumons et d'autres maladies qui viennent de tout cet environnement dont l'air est tellement pollué, mais autrement que ça l'était à la fin du 19e siècle. Qu'est-ce qu'ils vont faire à l'avenir, les êtres humains, devant ça? Ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont continuer de pelleter les problèmes en avant. J'aime cette expression-là parce que ça décrit vraiment de ne pas régler les problèmes. Ils n'en ont pas de solution. Les humains ne connaissent pas le chemin de la paix, par exemple. Ils parlent beaucoup de paix, mais ils continuent de pelleter là aussi les problèmes en avant, en s'armant le plus possible pour maintenir la paix, pour essayer de l'avoir. Mais on sait qu'à un moment donné, dans l'histoire, par la prophétie, tout ça va exploser à un moment donné, à la fin des temps. Les humains, sans le Saint-Esprit, imaginent et bâtissent l'avenir en ajoutant toujours de nouveaux problèmes. Ils bâtissent l'avenir, malheureusement, en ajoutant de nouveaux problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la perspective de Dieu. Ils n'ont pas l'Esprit de Dieu. Dieu les laisse faire cette expérience-là pour qu'elle porte fruit. Que quand le royaume sera là, les gens vont désirer avoir les vraies solutions et ils vont les voir, les vraies solutions, se développer. C'est pourquoi Dieu dit, 1 Corinthiens 2, verset 9, « Mais, comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Dieu nous les a révélées comment? Par l'Esprit. C'est par son Saint-Esprit qu'on peut voir les vraies solutions aux problèmes humains. Solutions totales, permanentes, qui vont venir. Et ça commence par les changements dans notre vie avec nous. Les vraies solutions. Et c'est intéressant parce que quand on va aller à la fête des tabernacles l'automne prochain, on va parler de ces solutions-là. On va partir de la Bible pour démontrer ce que le Christ va faire à son retour pour vraiment apporter des réponses définitives aux problèmes de l'humanité pour que tout soit changé. Et regardez bien, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, et de façon imméritée, parce que nous avons l'Esprit de Dieu, nous pouvons déjà avoir un aperçu de ce que sera l'avenir. Et c'est pour ça qu'on parle avec tellement de conviction et de force du merveilleux monde à venir, le monde de demain qu'on annonce aux gens, qu'ils y croient ou qu'ils n'y croient pas. Notre rôle, c'est de le faire connaître. Mais on sait très bien que ce monde-là va être formidable. Dieu nous les a révélées, ces choses-là, par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Qui donc, parmi les hommes, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? Et ça, c'est l'Esprit que Dieu nous a donné au point de départ, l'Esprit humain, qui nous donne l'intelligence et qui peut nous donner de faire des machines extraordinaires. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous à quel point l'Esprit est important pour nous? Pour connaître les choses de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu. Et pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut obéir à Dieu, y compris observer ses lois, son saint sabbat et ses fêtes. Tout ça se tient. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Formidable! C'est par le Saint-Esprit seulement que nous pouvons commencer à voir les choses dans la perspective de Dieu. Autrement, c'est impossible. Autrement, c'est absolument impossible. Et c'est seulement par le Saint-Esprit de Dieu qu'on peut commencer à voir aussi quelles doivent être les vraies priorités de notre vie. Que tout le reste dans notre vie n'a pas vraiment d'importance, sinon le but pour lequel Dieu nous appelle. Le restant, c'est accessoire. Et là-dedans, il faut établir les bonnes priorités selon Dieu, plutôt que d'avoir des priorités éphémères qui ne conduisent nulle part, ou de s'attacher à des choses qui n'ont pas de valeur, qui vont passer comme le monde va passer. On a accès à ces choses et nous pouvons avoir les vraies priorités de Dieu et comprendre son plan. Regardez le verset 13 et 14. « Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, parce qu'on parle de quelque chose à un autre niveau, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme naturel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu, n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu. On ne peut pas en vouloir aux gens qui ne comprennent pas que Dieu n'appelle pas pour l'instant. Absolument pas. Parce que l'homme naturel n'est pas capable d'accepter les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il revient encore à ça. Sans son Saint-Esprit, on ne peut pas le comprendre. Sans son Saint-Esprit, on ne peut absolument pas le comprendre. Il faut avoir le plus possible de ce Saint-Esprit, et non pas moins. Je vous donne un exemple. Et vous allez voir, ça va vous aider à comprendre. Ça va peut-être rappeler des souvenirs à certains d'entre vous qui êtes propriétaires de voitures. Ça vous est sans doute arrivé, comme moi, à un moment donné, de dire, « Oh, j'ai assez d'essence dans le réservoir. Je pense qu'il y a une station à tel endroit, là, on va être bon pour se rendre. » Puis à un moment donné, on voit l'aiguille dangereusement s'en aller vers le E ou vers le vide. Et là, la station qu'on pensait être là, elle n'est pas là. Puis là, on commence à avoir des sueurs froides parce que si on manque d'essence, là, on sait qu'on va être en problème. Ça va tout bousiller notre journée. Et nous, en ce qui nous concerne, en plus, on peut avoir joyeusement une offrande involontaire à faire parce que les policiers peuvent nous donner une amende parce qu'on a manqué d'essence. C'est la règle ici au Québec. Alors, c'est la même chose spirituellement. On ne peut pas se permettre d'avancer en n'ayant pas suffisamment d'esprit. Parce qu'à un moment donné, il va arriver des situations où on a besoin de faire plus loin, d'être plus fort. Mais s'il n'a pas suffisamment, c'est comme quel groupe de vierges? Comme les vierges folles qui n'ont pas assez pour être capables d'aller plus loin. Il faut avoir notre réservoir le plus plein possible chaque jour et même, comme les vierges sages ont fait, une réserve en supplément à côté. Certains vont traîner parfois un bidon d'essence dans le coffre de l'auto pour être certain que s'ils en ont besoin, qu'ils puissent y avoir accès. Troisièmement, un autre besoin de l'esprit, c'est pour comprendre ce que nous lisons. Peut-être que ça vous surprend. On a besoin du Saint-Esprit pour comprendre ce que nous lisons. Et je vais vous donner des exemples frappants. Il ne suffit pas d'avoir une Bible et il ne suffit pas de lire la Bible. C'est déjà beau, mais ça ne suffit absolument pas. Écoutez, je vous donne un exemple. Les presbytériens, les méthodistes, les catholiques, les anglicans, les témoins de Jéhovah, les baptistes ont aussi une Bible. Et la plupart ont la même Bible que vous. OK? Prenons ça comme ça. Mais ils tirent des conclusions tout à fait différentes de celles que vous tirez. Ils comprennent des choses complètement différentes de celles que vous comprenez. C'est la même Bible. Il y a quelque chose qui n'est pas pareil, là. C'est que vous avez l'Esprit de Dieu. Vous voyez les choses autrement. Eux, même entre eux, voient les choses de façon tout à fait différente et parfois même opposée. Et ils ne comprennent pas ce que la Bible dit. Pourquoi? Preuve, ils n'observent pas le sabbat pour la plupart. Ils n'observent pas les fêtes de Dieu. Ils observent Halloween avec plaisir. Ils observent Noël. Ils observent les Pâques. Ils observent le dimanche que Dieu défend d'observer parce que c'est un culte au Dieu soleil. Toutes ces choses-là que nous ne faisons pas. Pourquoi? Parce que Dieu nous les a révélées par son esprit. C'est ça. Ça nous donne la réponse. Pourtant, ils lisent le même livre que vous et que moi. Donc, le seul fait d'avoir une Bible et de la lire ne suffit pas. Là, vous comprenez mieux la phrase que je vous ai dit tantôt. L'élément essentiel, c'est d'avoir le Saint-Esprit. Et je vous donne un exemple frappant que M. Peter Nathan a donné dans un message qu'il a présenté il y a une couple d'années, duquel je me suis inspiré pour certaines choses dans mon message. M. Nathan a travaillé en Afrique il y a plusieurs années en tant que jeune ministre de l'Église de Dieu à ce moment-là. Et il racontait dans son sermon qu'il y a plusieurs gens de l'Afrique qui sont venus à l'Église, qui ont compris, mais qui avaient une Bible affreuse. Il disait une Bible abominable. La traduction qu'ils avaient entre les mains mêlait les choses. Les mots n'étaient pas bien choisis. Il y avait toutes les raisons de se mêler plutôt que de comprendre. Ce n'était pas vraiment un texte clair comme ceux qu'on peut avoir. C'était vraiment de nature à confondre les gens. Mais il dit, le Saint-Esprit a aidé un certain nombre de ces personnes-là à comprendre la vérité malgré ces défis-là, ces écueils-là. Ils ont compris pareil. Pourquoi? Parce que Dieu leur donnait son Saint-Esprit et parce qu'ils se mettaient en marche pour obéir à Dieu. C'est extraordinaire, c'est remarquable. Jean chapitre 16, on va lire le verset 12. Qu'est-ce que le Christ a dit à ses disciples ici? « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voyez-vous le rôle du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu? Le Saint-Esprit donnera de comprendre le plan de Dieu. C'est ça qu'il leur dit. Le Saint-Esprit va vous donner de comprendre le plan de Dieu. Et c'est pour ça que ceux qu'il appelle maintenant et qui se mettent en marche pour lui obéir peuvent comprendre le plan. Le Saint-Esprit nous aide à comprendre graduellement ce que nous lisons. Comprendre la profondeur puis la réalité des mots qui sont là, alors que d'autres lisent les mêmes textes, mais ne comprennent pas la même chose. C'est Dieu qui donne son exemple pour que nous comprenions. Et là, je vous donne un exemple encore plus frappant de ça. concernant l'apôtre Paul. Un exemple plus frappant que c'est le Saint-Esprit qui nous donne de comprendre les Écritures. Paul. Bon. Quand Paul était un pharisien qui a été enseigné par Gamaliel, quelle Bible est-ce qu'il utilisait? Il y avait seulement l'Ancien Testament à l'époque. Donc, c'était les 22 livres de l'Ancien Testament. Et c'était un connaisseur, il était pharisien. C'était un homme très érudit dans la loi. Et il connaissait, même par cœur, on dit, des grands passages des Écritures. Qu'est-ce qui arrive après? Dieu l'appelle. Dieu lui donne son Saint-Esprit. Il est baptisé, Dieu lui donne son Saint-Esprit. Et après, il commence à prêcher le royaume de Dieu, à avoir l'amour pour les chrétiens, à annoncer le royaume, et ainsi de suite. Quel livre est-ce qu'il lisait à ce moment-là, après avoir été appelé, maintenant qu'il était disciple de Dieu? Les mêmes 22 livres de l'Ancien Testament. La seule différence, mais c'est une grosse différence, c'est que maintenant, il comprenait ce qu'il lisait. Comprenez-vous? Il comprenait ce que Dieu avait mis dans ces paroles-là concernant son plan, concernant la vérité biblique. C'est fort quand on voit les choses de cette façon-là. Qu'est-ce qui avait changé? Est-ce qu'il y avait des nouveaux yeux? Dans un sens, oui, c'est qu'il y avait une vision nouvelle, il y avait une compréhension inspirée et guidée par le Saint-Esprit. Exactement. Et c'est pour ça que ses confrères pharisiens ont continué de ne pas comprendre et d'avoir encore les mêmes 22 livres et de ne pas comprendre, même d'être contre ce que Paul faisait. Tout à coup, ce qu'il avait lu et appris par cœur depuis sa jeunesse prenait une toute nouvelle dimension. C'est le Saint-Esprit qui peut causer un tel changement radical dans notre vie. De sorte que les mots, les mêmes mots, prennent vraiment tout leur sens, le sens que Dieu veut qu'ils aient. Jean 16, verset 13. Alors, il dit, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. » Pourquoi vous comprenez que le Christ va revenir bientôt? Pourquoi vous comprenez les événements qui se déroulent dans le monde actuellement et qui font partie de la prophétie? Pourquoi vous pouvez faire le lien entre les prophéties qui sont annoncées dans la Bible et ce qu'on voit dans les journaux de plus en plus clairement, la prophétie se réaliser par l'Esprit de Dieu que Dieu vous a donné? L'Esprit vous annoncera les choses à venir. Verset 14, « Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. » Tout ce que le Père a est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Voyez-vous pourquoi on a tellement besoin du Saint-Esprit, qu'on a tellement besoin de cette puissance de Dieu? Si pour vous, là je fais une petite parenthèse, parce que c'est important, on a tous des hauts et des bas, même dans notre vie spirituelle, c'est important de le réaliser puis de revenir à notre poste, de veiller à notre condition spirituelle. Si pour vous, la parole de la Bible ou les paroles de la Bible n'ont pas assez d'importance, si elles n'ont pas assez d'intérêt, ou si elles n'ont plus l'intérêt ou la signification qu'elles avaient avant quand Dieu vous a appelé, ça c'est un signal, c'est une lumière rouge qui est temps de repartir la machine, qui est temps de vous remettre en marche. C'est un signe qu'il faut demander à Dieu davantage de son Saint-Esprit et l'utiliser pour chaque jour mettre en pratique les choses qu'on sait devoir faire. Pour redevenir enthousiasme par rapport à la parole de Dieu. À retrouver l'enthousiasme qu'on avait avant. Pour être davantage motivé. Et là, pour revêtir le Christ et développer, dans ce sens-là, notre relation avec lui. Dans 1 Corinthiens 12, verset 3, il est dit... Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Et là, il faut expliquer un petit peu, parce qu'il y a des gens qui disent « Seigneur, Seigneur », puis qui, comme la Bible dit, qui pensent connaître Jésus, et ainsi de suite. Ce n'est pas le fait de dire « Seigneur, Seigneur », c'est de savoir qui il est, ce qu'il nous demande de faire, et de le faire. Personne ne peut dire « Jésus est le Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible de réaliser l'importance de Jésus-Christ, ni son rôle vraiment. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui se considèrent chrétiens. Beaucoup de gens qui pensent qu'ils connaissent Jésus-Christ, qui en parlent abondamment. Mais Paul dit, si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous n'avez même pas commencé. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit de Dieu, vous n'avez même pas commencé. Vous ne comprenez pas qui est cet être, le Christ. Quel est son rôle, quelle est sa majesté, sa puissance, son retour, le royaume, et ainsi de suite. Un autre point concernant notre besoin du Saint-Esprit, quatrième point, nous avons besoin du Saint-Esprit pour être capables de prier de manière efficace. Parfois, certaines personnes disent qu'ils éprouvent certaines difficultés à prier, ça arrive, ça m'arrive aussi, mais il faut demander à Dieu à ce moment-là de nous donner sa puissance pour être capable de prier selon son cœur, puis de lui demander ce qu'on a à lui demander de bonne façon. Bien sûr, il faut consacrer du temps à la prière. Ça, c'est automatique. Mais il faut aussi le Saint-Esprit pour être capable de prier adéquatement. Romains chapitre 8, s'il vous plaît. Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. Et on va lire le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Ça, c'est vous, ça, c'est moi. On est faibles de différentes façons. Mais l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Nous sommes physiques. On veut comprendre, on veut faire les choses comme il faut, mais on a parfois des creux de vague. On est parfois moins en forme. Il y a des problèmes qui nous assaillent. Parfois, on s'éloigne un peu. Ou parfois, on est plus âgé, ou la mémoire n'est plus ce qu'elle était. On oublie des passages bibliques. On cherche où est-ce que c'était écrit telle chose. D'autres vont dire, j'ai perdu ma concordance, je ne sais plus où je l'ai mis. Puis ça fait longtemps que je la cherche. Alors, voyez-vous, on est physique, on est humain, on a besoin que Dieu nous aide. Et il est prêt à le faire. On est physique. Ça pose certains défis d'être physique. Et Paul dit, le Saint-Esprit nous aide dans nos faiblesses, quelles qu'elles soient. On peut lui demander dans ce cas-là aussi. Verset 26, on continue, « Nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. » Ce qu'il convient de demander, ça veut dire ce qui est bon que nous demandions à Dieu. Et c'est vrai. D'ailleurs, si vous êtes comme moi, les premières fois qu'on prie, quand on découvre la prière, qu'on découvre Dieu, on a une liste, une longue liste de demandes pour nous autres-mêmes. Et puis, c'est comme ça, parce qu'on pense à petit moi pour commencer. Et après, le Dieu nous montre qu'on doit élargir nos horizons et qu'il faut se mettre plus loin dans la liste de demandes. Il faut d'abord chercher à faire la volonté de Dieu. Quand on fait ce pas-là, ça nous aide énormément et on a encore plus de choses à dire à Dieu. Il dit, nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Nous faisons des efforts pour prier, au mieux, bien sûr. Mais Paul nous dit que nous ne savons pas toujours ce que nous devons demander, ce que nous devons dire et ce que nous avons besoin de demander. Parce qu'on a besoin de demander certaines choses, mais on ne réalise pas tout le temps. Et c'est là qu'on a besoin aussi, pour ça, de l'inspiration de Dieu. Parfois, je donne un exemple. Parfois, on demande à Dieu d'enlever l'obstacle qui est devant nous, ou d'enlever le problème qu'il y a là, la grande difficulté, ou l'épreuve, si vous voulez. Et parfois, Dieu va nous répondre, non, je ne veux pas enlever cette épreuve, parce que je suis en train d'accomplir quelque chose de plus grand en toi. Et j'ai à cœur la finalité, ton but au total. Et tu as besoin d'apprendre certaines choses à travers cette épreuve-là pour que tu sois prêt pour les grandes choses qui s'en viennent en ta faveur. De notre point de vue humain, nous voyons seulement le problème qui est là, devant nous. C'est comme ça. C'est la réalité. Quand il y a un problème du point de vue humain, c'est ça qu'on voit. Oui, puis c'est ça qu'on a devant nous. Mais ce qu'on apprend dans la prière qui nous est enseignée, c'est de chercher d'abord à faire la volonté de Dieu, mais de demander à Dieu que sa volonté soit faite avant nos besoins. Que sa volonté soit faite, y compris dans ma vie. Ce qui implique beaucoup de changements et beaucoup de changements dans la façon de penser. Il ne faut jamais oublier que c'est une des choses majeures, et sinon la première qu'on doit demander à Dieu, donne-moi de faire ta volonté en toute chose. Donne-moi de faire ta volonté en toute chose. Romains 8, verset 26, la deuxième partie. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède. Ça, c'est tellement encourageant. Quand j'ai vu ce verset-là il y a quelques années, ça a été une source d'inspiration et d'encouragement extraordinaire. Mais l'Esprit lui-même intercède. Donc, le Christ intercède par sa puissance pour nous aider, même dans la prière. Mais ça, c'est quelque chose qu'on peut lui demander et lui expliquer en détail. Dis, Seigneur Jésus, tu nous as montré à prier, mais j'ai de la misère. Aide-moi, guide-moi par ton esprit, aide-moi à développer la bonne façon de prier. Alors, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Et le Christ a à cœur que vous réussissiez. On a besoin du Saint-Esprit pour prier. 1 Jean 5, 14, 15, il y a une promesse formidable. 1 Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, voyez-vous, je reviens à ça encore, et il nous écoute, il faut commencer par ça. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Quelle qu'elle soit. Et c'est pour ça, dans le sermon que M. Appartient a déjà donné sur la prière, « Comment priez-vous? » Il disait que l'essentiel de vos prières soit chercher à faire la volonté de Dieu, lui demander de faire sa volonté et d'exprimer reconnaissance, de dire plein de merci pour tout ce que Dieu fait pour le monde, pour l'œuvre, pour vous, et ainsi de suite, avant de demander pour des besoins particuliers en ce qui nous concerne. Dieu va s'occuper du reste. Il sait ce dont nous avons besoin et il va intervenir pour ça. Dans nos prières, même si nous ne demandons pas tout le temps ce qui convient, si nous faisons les bonnes choses, par contre, si on s'applique à obéir, Dieu va faire le reste et il va nous aider à aller plus loin dans ce sens-là. Éphésiens 6, 18, il est écrit, « Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. » Faites en tout temps et par l'Esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Alors voyez-vous, le Saint-Esprit doit être associé à nos prières. Et c'est là que nos prières peuvent devenir plus efficaces. Cinquièmement, si on cherche vraiment à développer une relation avec le Christ, si nous améliorons notre vie de prière, si nous revêtons le Christ dans sa façon de penser, c'est que ça va produire des fruits nécessaires en nous pour vaincre le monde et vaincre nos faiblesses. En d'autres termes, pour devenir quelqu'un qui pratique les voies de Dieu, qui les met vraiment en pratique, qui a à cœur de le faire, qui ne se contente pas simplement de le savoir. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. On va lire le verset 16 ici. Galates 5, verset 16. Je dis donc, marchez selon l'Esprit. On revient encore avec ça. L'Esprit doit être partout. Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. C'est nos combats qu'on a amenés. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. C'est notre combat. C'est le même combat que Paul avait. Et ce sera un combat qu'on aura amené jusqu'au retour de Christ, mais avec son esprit, on pourra y arriver. Et après, il donne une liste des œuvres de la chair, desquels on doit s'éloigner et qu'on doit vaincre. Et après, il donne au verset 22 et 23 les fruits de l'esprit qu'on développe lorsqu'on utilise l'esprit de Dieu. L'amour, la joie, la paix, verset 22, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. La loi n'est pas contre ces choses. Pourquoi? Parce que ces traits de caractère-là, ce sont les traits de caractère parfaits de Dieu et du Christ. Absolument. Alors, c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit pour réaliser ces choses-là et pour en vivre. Maintenant, je fais une différence ici entre les dons de l'Esprit et les fruits de l'Esprit. Et c'est mon sixième point, c'est qu'on a besoin du Saint-Esprit pour avoir les dons du Saint-Esprit. En plus des fruits. Là, je viens de parler des fruits du Saint-Esprit, mais pour avoir les dons du Saint-Esprit, on a besoin du Saint-Esprit également, mais il y a une différence. Vous lirez le chapitre 12 de 1 Corinthiens, où là, il décrit les dons. On a vu dans Galates 5, versets 22 et 23, les fruits du Saint-Esprit, mais dans 1 Corinthiens 12, vous allez voir les dons du Saint-Esprit. Et il y a une différence, c'est important que vous sachiez, entre les fruits de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Chacun de nous, on doit avoir tous les fruits de l'Esprit. On doit les développer tous. On ne peut pas choisir là, à la carte comme on fait pour un menu dans un restaurant. Ils doivent tous être présents dans nos vies. Par contre, ce ne seront pas tous les dons de l'Esprit qui seront présents dans nos vies. ce ne seront pas tous les dons de l'Esprit. Comme par exemple, parler diverses langues, interpréter des langues, guérir, parler en langue, et ainsi de suite. Il donne, vous allez voir la liste. Ça, c'est des dons du Saint-Esprit. Ce ne sont pas des fruits. C'est différent. Monsieur Nathan, dans son sermon, a donné un exemple intéressant d'un monsieur en Afrique. Je ne sais pas si c'était au Mozambique ou au Zimbabwe, là où M. Nathan travaillait. C'est qu'à un moment donné, ils ont eu une demande de visite. Je pense que c'était en 1973. Et le monsieur s'est présenté en costume, cravate. C'est un fonctionnaire. Et il voulait être baptisé. Et il voulait être baptisé, donc... M. Nathan a travaillé avec lui pour voir où il en était rendu, comme on fait avec quelqu'un qui désire être baptisé. Et le monsieur voulait être baptisé dans un but précis. Il voulait parler en langue. Il avait vu dans la Bible qu'un don du Saint-Esprit, c'était de parler en langue. Et là, pour lui, c'était son but. Alors, M. Nathan et son collègue ministre ont essayé de lui expliquer que donc il y avait d'autres conditions, que ce n'était pas la chose principale, qu'on ne devait pas chercher ça en cherchant Dieu au point de départ. Alors, ça a resté là. Ils ne sont pas allés plus loin. Ils ne l'ont pas baptisé. Ils sont revenus un bout de temps après pour voir si le monsieur avait cheminé spirituellement, mais il voulait encore parler en langue. Il voulait se faire baptiser pour être capable de parler en langue. C'était clair qu'il n'était pas prêt à faire ce qu'il faut pour recevoir le Saint-Esprit avant d'avoir et les fruits et les dons. Voyez-vous? Il faut avoir le Saint-Esprit avant. Et pour avoir le Saint-Esprit, il faut mettre en pratique. Celui qui m'aime garde mes commandements. C'est ça. Alors, il n'était pas prêt à faire ces choses-là, mais il voulait avoir le don des langues. C'est un peu comme Simon le magicien, là. Quand vous regardez dans Acte 8, c'est la même chose. Il n'était pas prêt à faire ce qu'il faut. Il était prêt à payer pour avoir le Saint-Esprit parce qu'il voyait les miracles que les apôtres faisaient. Les dons viennent après l'obéissance, après les fruits de l'Esprit, selon Dieu, selon son plan, selon ce que lui décide. Les dons ne peuvent nous être accordés que si nous développons de devenir un avec Dieu et avec son Fils. Et seulement si nous faisons ce qui est important pour eux selon le plan de Dieu. Tout ça, ça se tient, ça forme réellement un tout. Dernier point, septième point, le Saint-Esprit est essentiel pour notre vie éternelle. Ça se comprend, c'est un dépôt de notre vie éternelle quand Dieu met son Saint-Esprit en nous au baptême, au moment de l'imposition des mains par un ministre de Dieu. La relation à Dieu qui nous est offerte, c'est une relation éternelle, sans fin, dans l'éternité. Et elle est impossible sans le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est un prérequis pour entrer en terre promise spirituelle. Et c'est intéressant parce que quand vous allez voir dans l'Ancien Testament, il y a le cas d'un homme en particulier, Caleb, dont Dieu a inspiré l'auteur du livre des Nombres de parler de façon très élogieuse. Et ça nous dit beaucoup. Vous pourrez aller voir dans Nombres 14, verset 24. C'est Caleb, un des 12 espions, là, qui avait été envoyé pour explorer le pays avant qu'ils entrent en terre promise. Les 10 autres espions avaient fait un rapport très négatif. Ils ont dit, on ne pourra pas prendre le pays, même si Dieu nous a dit d'y aller. Et Caleb et Josué ont dit, eux, on peut y aller, Dieu est avec nous, même s'il y a des géants, même si ça semble difficile. Mais dans le cas de Caleb, regardez ce que Dieu dit de lui dans Nombres 14, verset 24. Cet homme a un esprit différent. Cet homme a un esprit différent. Il n'a pas seulement l'esprit humain. Il a mon esprit en lui et il l'utilise de bonne façon pour mettre sa confiance en moi. C'est formidable. Il dit, cet homme a un esprit différent. Il héritera la terre promise. Et c'est ce qui est arrivé à Caleb. Et je suis convaincu que c'est ce qui va arriver à Caleb lors de la première résurrection, parce que ça a été vraiment un serviteur exemplaire de Dieu. Pour vous et pour moi, c'est essentiel d'avoir le Saint-Esprit pour entrer dans le repos millénaire de Dieu, dans le royaume qui vient, pour naître bientôt dans sa famille au retour de Christ. C'est la vie éternelle qui est promise par Dieu et qui exige la présence active et abondante en nous du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise qu'en tant qu'appelé de Dieu, on a un immense bonheur, celui d'avoir accès au Saint-Esprit, à sa puissance. Depuis le choix d'Adam et Ève qui ont pris l'arbre de la mort, dans le fond, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Toute l'humanité a été coupée de Dieu depuis ce temps-là, n'a pas eu son Saint-Esprit. Toute l'humanité, sauf les quelques-uns qui ont été appelés dans l'Ancien Testament, et le petit troupeau que Dieu appelle maintenant et qui reçoivent son Saint-Esprit lorsqu'ils se repentent, qu'ils sont baptisés et qu'ils reçoivent imposition des mains par un serviteur de Dieu. C'est intéressant, et je termine là-dessus, sur une image qui m'est venue ce matin en finissant de préparer le sermon. Dans le fond, là, nous sommes les prémices de Dieu, ses premiers fruits, le petit troupeau, et nous nous retrouvons comme au tout début de l'histoire humaine, dans le jardin d'Éden. Nous avons accès directement à l'arbre de vie. Et si nous sommes fidèles, Dieu va nous utiliser pour écrire le reste de l'histoire de l'humanité.